Voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Emmanuel Macron a imposé l'Iran au menu du G7. Il a invité hier après-midi à Biarritz le ministre iranien des Affaires étrangères. Est-ce un coup politique ou une réelle avancée diplomatique? Nous poserons la question à notre envoyé spécial sur place.
Et nous dresserons ensuite le portrait d'une figure altermondialiste militante de longue date contre les grandes puissances. Elle est à Biarritz pour demander des mesures concrètes pour l'environnement notamment.
Qui sera le représentant français à la Commission européenne et quel sera son portefeuille? L'Élysée doit rendre public sa décision aujourd'hui. Et comme un début de réponse à cette question dans le billet politique après ce journal, Frédéric Seyss se penchera sur les changements d'Emmanuel Macron en matière d'écologie.
Et avant cela, dans cette édition, nous ferons le point sur l'opposition face à la loi bioéthique. La question de la PMA pour tout arrive à l'Assemblée nationale aujourd'hui.
Opposition également face au projet du ministère de l'Éducation nationale. Le ministre reçoit les syndicats pour éviter une grève début septembre. Le chemin est difficile, mais cela vaut la peine d'essayer. Cette phrase est signée Mohamed Javad Zarif. Le ministre iranien des Affaires étrangères l'a publiée hier soir sur Twitter après avoir quitté Biarritz. Quelques mots et deux photos de son entretien avec le président français Emmanuel Macron à l'origine de l'invitation. Sont aussi présents l'homologue de Javad Zarif, Jean-Yves Le Drian, et des représentants britanniques et allemands. La visite surprise de l'Iranien à Biarritz a monopolisé hier l'attention du G7. Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour.
Bertrand, comment Emmanuel Macron a-t-il monté son coup ?
L'idée de cette invitation a été soumise au chef de la diplomatie iranienne vendredi dernier lorsqu'il a été reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron, la condition étant que les membres du G7 ne s'y opposent pas. Le président français en a parlé avec Donald Trump dès le déjeuner en tête-à-tête samedi à l'hôtel du Palais à Biarritz sans que le président américain y mette son veto. Les autres participants au G7 auraient été informés quelques heures plus tard lors du dîner inaugural. En l'absence de réaction négative, Mohamed Javad Zarif a été prévenu aussitôt et a pu décoller pour la France. Arrivé à Biarritz hier en début d'après-midi, le ministre iranien est reparti pour Téhéran en fin de journée, après avoir vu Jean-Yves Le Drian pendant plus de 2 heures et Emmanuel Macron pendant une trentaine de minutes.
Et quel résultat peut-on déjà tirer, Bertrand, de cette invitation surprise ?
Hier soir, l'Elysée se félicitait de discussions positives avec le chef de la diplomatie iranienne. Pourtant, le résultat de ce coup d'éclat apparaît incertain. Les États-Unis sont restés à l'écart de la discussion, même si elle a eu lieu à la mairie de Biarritz à seulement 200 mètres des réunions du G7. Or, c'est Donald Trump qui détient la clé du conflit avec l'Iran et depuis le début du sommet, à aucun moment, il n'a envoyé de signal d'ouverture diplomatique ni promis un allègement des sanctions contre Téhéran. On devrait en savoir davantage cet après-midi lors d'une conférence de presse commune tenue par Emmanuel Macron et son homologue américain en clôture du sommet du G7 ici à Biarritz.
Merci beaucoup Bertrand Galichet à Biarritz donc ce matin pour France Culture, accompagné de Sandrine Malon pour les moyens techniques. Sommet qui aura aussi beaucoup tourné autour des questions climatiques ces 2 derniers jours alors que l'Amazonie brûle toujours. Plus 1 millier de nouveaux feux s'y sont déclarés en moins de 24 heures. Le Brésil envoie enfin, si l'on peut dire, 2 avions pour larguer des dizaines de milliers de litres d'eau sur les flammes. Hier, la Colombie voisine proposait l'idée d'un pacte régional pour conserver cette forêt amazonienne. Pacte qui sera présenté devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York au mois de septembre. On attend d'ici là la réaction concrète des pays du G7. Et comme un signe d'impatience, de colère également, colère non maîtrisée, la permanence d'une députée de la majorité La République En Marche a été dégradée hier à Figeac dans le Lot. Vitre cassée avec cette inscription « G7 envie de tout péter, hashtag Amazonie ». Inscription écrite à l'extérieur de la permanence, une personne a été interpellée. Par ailleurs, sachez que globalement, les manifestations se sont plutôt bien déroulées dans le calme en marge de ce G7 à Biarritz, à Hendaye ou à Bayonne. Cette nuit, 17 personnes étaient encore en garde à vue. Les manifestants n'en sont pas moins déterminés. Rencontre ce matin avec Suzanne Georges, écrivaine franco-américaine. Elle est l'une des fondatrices d'ATTAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Rencontre donc grâce à Rosalie Lafarge.
À maintenant 85 ans, Suzanne Georges en a vu passer des grands rendez-vous internationaux entre dirigeants.
Ça sert de mégaphone pour eux, l'exercice de pub personnelle. C'est pas la vraie vie pour moi.
La vraie vie pour elle, c'est la lutte. À travers les livres, à travers l'action aussi, ce sont les idées qui font avancer, même si les avancées réelles, notamment en matière environnementale, l'écrivaine ne les voit toujours pas venir.
Non, pas de ce côté-là. Ce qui a avancé beaucoup, c'est la prise de conscience des jeunes. Je me dis, on n'a pas fait tout ça pour rien. Et la lenteur des changements politiques est parfois assez décourageant, c'est le moins qu'on puisse dire, mais les idées finissent par pénétrer.
Et par pénétrer ici à Biarritz, jusque-là sans violence.
On a tout fait pour ça. Bon, il y avait des black blocs qui pensent que nous ne sommes pas assez radicaux. À quoi ça sert ?
À rien semble souffler l'altermondialiste. Elle, ce qu'elle préfère, c'est le débat d'idées.
On ne sait pas ce que c'est l'avenir. Beaucoup de gens diraient, mais c'est trop tard pour le climat. Ben peut-être. Mais eux ne savent pas et moi non plus. Alors il faut qu'on fasse comme si. Comme s'il y avait encore une possibilité. Bien sûr, on a des moments de découragement. Mais qu'y a-t-il à faire d'autre ?
Appuyée sur sa canne, Suzanne Georges perd rarement son sourire et quand on lui demande si elle est plutôt optimiste ou pessimiste pour l'avenir, voici ce qu'elle répond.
Je ne suis ni l'un ni l'autre, mais j'ai de l'espérance, voilà.
L'espérance de cette figure altermondialiste, c'était au micro de Rosalie Lafarge. Voilà pour les attentes, nombreuses, on le comprend, en matière environnementale. À l'Élysée, un geste pourrait être fait au niveau européen. Vous allez comprendre pourquoi. C'est aujourd'hui que l'Élysée doit désigner son commissaire européen. Ils seront 27 au total, un pour chaque pays de l'Union, sous les ordres de la présidente. Chaque commissaire sera en charge d'un domaine différent. Alors, quel sera le portefeuille du français, Angélique Boin ?
L'environnement, le commerce, un homme ou une femme, à l'Élysée, plusieurs hypothèses auraient été à l'étude jusqu'à la dernière minute et la séquence du G7 pourrait bien avoir influencé la décision d'Emmanuel Macron. L'environnement aurait l'avantage de la cohérence pour travailler en duo avec les élus européens. C'est en effet le français Pascal Canfin qui préside la puissante commission parlementaire de l'environnement. Sur ce poste, les noms de Laurence Toubiana, Ségolène Royal ou la secrétaire d'État Brune Poirson circulent. Au commerce, Michel Barnier ou encore Sylvie Goulard, actuelle sous-gouverneure de la Banque de France, sont régulièrement cité. Mais les jeux restent ouverts et l'attribution des portefeuilles se fera en concertation avec la présidente de la Commission européenne qui a par ailleurs promis une équipe paritaire. Elle doit aussi composer avec les exigences des partis politiques représentés à Strasbourg pour obtenir leur investiture. À ce stade, seuls deux pays, la Roumanie et le Portugal, ont proposé un homme et une femme. 17 pays veulent reconduire leur commissaire actuel. Sauf surprise, le néerlandais Frans Timmermans, la danoise Margrethe Vestager et l'espagnol Josep Borrell comme chef de la diplomatie feront partie de la future équipe. Le plus jeune candidat est lituanien, il a 28 ans, et le plus problématique sera sans doute le hongrois, un ancien ministre de la justice proposé par Viktor Orban, pas sûr qu'Ursula von der Leyen apprécie de la part d'un pays accusé de régulièrement bafouer l'état de droit.
Le Haut Commissariat pour les réfugiés rattaché aux Nations Unies demande à la Grèce d'agir sur l'île de Lesbos. S'il veut voir transférer dans des lieux sûrs les centaines d'enfants migrants qui vivent dans le camp de Moria. Ils y sont 600 actuellement, mais devraient être au maximum 160. Promiscuité et violence y sont légion. Samedi soir, un jeune Afghan de 15 ans y a été poignardé à mort. Partons maintenant en Italie où les discussions s'intensifient entre les populistes du mouvement 5 étoiles et les démocrates de centre-gauche. Ces deux partis pourraient s'entendre pour former un gouvernement, même si les dossiers qui les opposent restent nombreux. Le premier d'entre eux est la ligne à grande vitesse entre Lyon et Turin, la ligue d'extrême droite. Avant, les démocrates y étaient favorables, les 5 étoiles pas du tout. Et sur le terrain, les militants anti-TGV désespèrent. Isabelle Labéry les a rencontrés dans la vallée de Suse.
La maison de Barbara est cachée dans les arbres, au pied de la montagne, un peu trop près des rails.
Vous voyez les toits rouges ? La ligne est juste derrière. On entend, et là c'est un petit train. Vous imaginez le bruit d'un TGV ?
30 ans que l'institutrice milite contre ce projet destiné à faire circuler plus d'hommes et plus de marchandises entre la France et l'Italie. Une absurdité économique, dit-elle, et des dégâts pour l'environnement.
Pendant toutes ces décennies, on en a vu passer des gouvernements. Mais même avec les plus ouverts, on n'a jamais obtenu l'abandon de l'ouvrage.
Avec l'arrivée des 5 étoiles au gouvernement l'an dernier, les militants ont cru au changement. Leur déception est immense.
C'est un parti d'ignorants, mal préparé, incapable, absolument pas digne de confiance.
David Rostan est pasteur dans la vallée.
En un an au gouvernement, ils n'ont rien fait. Ils se sont juste servis de ce dossier pour leur image, pour faire semblant d'être de gauche. Parce qu'ils savent très bien que ni les démocrates ni aucun autre parti n'acceptera d'arrêter le chantier, que la bataille est perdue d'avance.
L'Union européenne vient même de donner un coup d'accélérateur au chantier en augmentant son financement.
C'était un reportage d'Isabelle Labéry dans la vallée de Suse.
8h11 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Une commission spéciale se penche à partir d'aujourd'hui sur le projet de loi relatif à la bioéthique.
Oui, une commission de l'Assemblée nationale composée de 72 députés de tous bords. Pendant 2 semaines, ils vont écouter des associations, des experts, des représentants du culte, comme un gage de sérénité avant les futurs débats sur la PMA, la procréation médicalement assistée. Pour le moment, Nicolas Ballu, l'opposition ne semble pas vouloir rejouer le jeu de la manif pour tous.
L'opposition n'est ni unie ni vent debout contre ce projet, tout comme la majorité, mais le rapport de force politique semble pencher en faveur de l'extension de la PMA à toutes les femmes. Le mariage pour tous est passé par là, les élections également à droite, le parti Les Républicains s'interroge sur ses positions conservatrices en matière sociétale. Les opposants cherchent d'ailleurs d'autres arguments que ceux de la manif pour tous. Fin juin, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, estimait que la PMA devait être remboursée à toutes les femmes, seule façon d'assurer réellement une égalité. À quelques jours du début des travaux de la commission spéciale, 2 députés, les Républicains, membres de cette commission, sont montés au créneau. C'est une dérive du remboursement de la sécurité sociale, affirme Pierre-Henri Dumont, la PMA n'étant pas faite pour combler une maladie. Réponse dans la foulée d'Agnès Buzyn, on n'a pas besoin aujourd'hui d'être malade pour avoir accès à la PMA, même quand on est un couple hétérosexuel. Autre angle d'attaque, certains opposants, parfois de gauche, mettent en avant le risque de voir le nombre de donneurs de sperme baisser en cas de levée, même partielle, de l'anonymat.
Merci Nicolas Ballu. La rentrée politique s'annonce donc intense avec plusieurs réformes, la bioéthique, on vient de l'entendre, les retraites également. Alors pour éviter de rallumer un nouveau feu en septembre, l'éducation nationale, à l'éducation nationale, le ministre joue la carte du dialogue. À 1 semaine de la rentrée scolaire et après une loi Blanquer et une réforme du baccalauréat critiquée par les enseignants l'année dernière, Jean-Michel Blanquer reçoit les syndicats en ce début de semaine, car la colère n'est pas éteinte à Kim Kasmi.
La trêve estivale est loin d'avoir apaisé les syndicats qui menacent déjà de faire grève en septembre. Principale revendication, la réforme du bac qui va entrer en vigueur à la rentrée pour les élèves de première. Le SNES, principal syndicat du secondaire, demande une refonte et plus de transparence, notamment sur les spécialités que pourront choisir les élèves, si en théorie le ministère en garantit au moins 7 au choix dans chaque établissement. Cela ne sera pas le cas partout, avec parfois même des classes qui vont être fermées faute d'effectifs suffisants. Les effectifs reste un sujet très sensible car 2600 postes vont être supprimés dans le secondaire dès la rentrée alors que la majorité des classes au lycée ont encore 35 élèves par classe. Autre sujet de discorde, la formation des enseignants. Avec la réforme, ils devront désormais passer le concours d'entrée en Master 2, ce qui risque encore d'accroître la crise des vocations. En effet, de nombreux postes restent non pourvus au concours, notamment en langue, en maths et dans le primaire. Le primaire, autre chantier prioritaire d'Emmanuel Macron, qui souhaite 24 élèves par classe en élémentaire, en CP et en CE1 dès la rentrée 2020. Mais avec quels moyens s'interroge le SNIPP ? D'autant que le dédoublement des classes en zone d'éducation prioritaire est très gourmand en enseignants. Enfin, les partenaires sociaux attendent des réponses concrètes en matière d'augmentation, nos professeurs étant en dessous de la moyenne de l'OCDE au niveau salarial.
Les organisations syndicales seront donc reçues au ministère de l'Éducation nationale aujourd'hui et demain, à commencer ce matin par la FSU. La situation est préoccupante dans la Creuse à Guéret. La commune est sur le point de manquer d'eau potable à cause de la sécheresse de ces 3 derniers mois. Et le temps de ce lundi n'y arrangera rien. Si quelques bandes brouillard sont annoncées sur toute la façade ouest, partout ailleurs, un grand et chaud soleil va briller avec des températures toujours hautes. Comptez ce matin 19 degrés à Brest, 25 à Besançon et à Lyon, 27 à Lille, Paris, Bordeaux, 29 degrés ce matin à Nice, entre 25 et 34 degrés cet après-midi en France métropolitaine.
Merci Clara Lecoq-Réal.